Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Mais quelle est donc la véritable source de notre joie? Petit plaisir, petit bonheur, injonction d'aller bien, de sourire, d'être heureux, de réussir, d'étaler son bonheur peut-être sur les réseaux sociaux. Le bonheur est partout au point d'angoisser ceux qui n'y parviennent pas. Mais le bonheur signifie-t-il la joie? Est-ce la vraie joie? Faudrait-il d'ailleurs redéfinir ces concepts? Comment trouver la joie et l'accueillir? La joie est-elle réservée à une expérience chrétienne ou est-elle enfouie au plus profond de nous-mêmes? Clé de compréhension et piste pour aller plus loin ce matin dans Quête de sens avec mes deux invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence de Villers. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour.
Bonne année à vous, bonne et douce année.
Merci à vous aussi, bonne année.
Au sein de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, puisque vous en êtes le doyen. Et vous êtes aussi maître de conférences, ancien élève de l'ENS, agrégé, docteur en philosophie. Et vous avez publié, on en avait parlé déjà à l'antenne, « Un bonheur sans mesure » aux éditions Albin Michel. C'était en 2017. Et puis « Guérir la vie par la philosophie » qui était paru aux éditions PUF en 2017 également. Et bien d'autres choses encore. Voilà. Florence Servan-Schreiber, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes journaliste, auteur conférencière. En 2015, vous avez fondé la 3 Kiff Academy. On va voir ce que c'est. C'est... En fait, compte en quelques mots apprendre la psychologie positive pour s'épanouir, kiffer en suivant des cours en ligne. C'est assez original, c'était inédit. En 2016, vous avez coécrit et vous êtes monté sur scène pour jouer le premier spectacle au monde autour de la psychologie positive, La Fabrique à Kiff, un masterclass exceptionnel sur le bonheur. Et puis, vous avez publié La Fabrique à Kiff, Muscler son bonheur grâce à la psychologie positive aux éditions Marabout. Vous êtes la créatrice de Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien. Vous nous en parlerez
oui.
aussi, parce que l'écriture est un exercice, justement, qu'on peut peut-être un peu plus pratiquer. Et vous organisez, évidemment, la Nuit du Kiff qui aura lieu au Grand Rex le 17 février prochain. Voilà, autant de choses. Vous
C'est
êtes
ça.
Multi, j'allais dire multi-carte, mais vraiment dans une et seule même... finalité.
L'intention est toujours la même, c'est voilà, de pouvoir nous apprendre, travailler, s'entraîner pour éprouver des choses un peu différemment.
Alors j'allais le dire, là, cette émission est un peu la bienvenue parce qu'on est dans une atmosphère un petit peu lourde où finalement on cherche j'allais dire, le bonheur partout, peut-être en se détachant de cette réalité qui est un petit peu dure et qui est un peu complexe. Mais est-ce que le bonheur et la joie, c'est la même chose, Laurence de Villers?
Oui et non. La joie participe du bonheur. C'est difficile d'imaginer un bonheur où il n'y ait pas une forme de joie, de jubilation. Mais la joie est un état et un état passager, par définition. C'est le passage d'un mode d'être à un mieux-être. C'est la sensation comme un étau qui se desserre. Et pour le coup, on se rend compte qu'on est très souvent crispé dans notre façon de vivre et la joie dessert quelque chose. On souffle mieux, ça va mieux. Dans le bonheur, il y a une aspiration beaucoup plus grande et à mon sens, il y a une aspiration à un absolu. Ce qui n'est pas
Quand
le cas...
Quand on parle du vrai grand bonheur.
Voilà, bah, je pense qu'il n'y a qu'un vrai grand bonheur et que les autres sont des petits bonheurs. En tout cas, ce n'est pas la même chose. En tout cas, il y a en nous, je crois, une aspiration à un absolu de bonheur. Et c'est ce qui fait toute sa difficulté. Est-ce que c'est possible en cette vie? Comment? Pourquoi? Est-ce que c'est...
Particulièrement dans une réalité quotidienne, dans une société qui...
Exactement.
Qui nous encercle, j'allais dire. On est dans cet étau où on cherche peut-être à échapper, finalement.
Alors, est-ce que le bonheur, c'est s'échapper de la réalité? Est-ce que c'est instaurer une forme de bulle heureuse? Souvent, quand on parle de l'ici et du maintenant, on le constitue en bulle, séparé du monde et du réel. Moi, je pense que tout ce qu'on peut entreprendre qui nous met à l'écart encourt le risque d'un effet de boomerang. Le réel nous rattrapera de toute façon, il était là avant
on
nous.
On ne peut pas échapper à la réalité.
Mais non. Non.
Alors, est-ce qu'on peut échapper à la réalité, Florence Servan-Schreiber, en se disant, voilà, on va essayer de cultiver cette psychologie positive, puisque vous y consacrez, vous consacrez à finalement partager, à répandre ce bonheur, que ce soit en entreprise, que ce soit en spectacle, que ce soit à travers l'écriture. Vous vous y consacrez, pourquoi ?
Alors, ce que je répands d'abord, pour juste préciser ce qu'est la psychologie positive, ce sont bien des recherches qui sont faites dans des laboratoires universitaires et qui vont, comme ça, en émettant des hypothèses, vérifier un certain nombre de choses et nous proposer donc, par des conclusions, certains comportements, certains regards que nous pouvons poser sur la réalité pour, justement, lorsque la réalité nous rattrape, trouver comment nous en sortir. Je voudrais peut-être commencer, si on parle de joie, par célébrer la difficulté. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de difficulté, le bonheur n'aurait strictement aucun intérêt. Et quand on dit le bonheur, c'est quelque chose d'absolu. C'est impossible d'être heureux absolument tout le temps. C'est là où la joie intervient, parce que la joie, c'est très chouette, puisque ça survient. Et que tout à coup, ça va apparaître, et puis ça va disparaître.
On ne sait pas trop comment, d'ailleurs, à un moment donné.
Non, mais justement, à force de se connaître et d'essayer des choses, on peut quand même, on a des moyens pour la provoquer. Voilà, on peut se mettre un petit peu dans des situations qui peuvent nous aider à le ressentir. Mais le réel reviendra toujours, puisque de toute façon, c'est lui qui domine et c'est lui qui est là.
Mais Florence Servan-Schreiber, on a l'impression aujourd'hui d'être dans une société où on va justement essayer d'être dans le bien-être absolu, le développement personnel, d'être toujours souriant. On a ces espèces d'injonctions qui nous font... il faut paraître sur les réseaux sociaux toujours heureux, toujours bien entouré, sur des beaux lieux. C'est des injonctions permanentes.
Vous savez, je crois que afficher son bonheur, c'est aussi une façon de prendre des vacances de sa vie réelle. Parce que une des choses qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le malheur. Les choses négatives. On le voit, les médias sont construits autour de ce concept qui est que vraiment.
Toute la littérature.
Absolument.
Il n'y a pas de littérature sans malheur.
Le drame amoureux est beaucoup plus passionnant que l'histoire qui va bien, que la comédie romantique. Il y a toujours des difficultés, même dans les comédies romantiques, etc. Donc ça, c'est la réalité. Nous aspirons vraiment à ça. Et puis, de temps en temps, on a envie de se représenter comme ça, un peu joyeux, un peu content, sur une plage en rigolant, parce que ça fait aussi partie de notre vie. Mais dans le fond, en fait, ce qui est difficile nous happe beaucoup plus, si on regarde bien.
Est-ce qu'on est justement dans cette injonction du bonheur, Laurence Villers, dans la comparaison, dans l'envie finalement de l'autre, du bonheur de l'autre ?
En fait, là, vous touchez un point qui est très intéressant en philosophie. Hobbes, celui qui a repris cet adage latin « l'homme est un loup pour l'homme ». Pourquoi l'homme est un loup pour l'homme ? Non pas par une sorte de méchanceté ou d'agressivité permanente. D'abord parce qu'il a envie d'être heureux. Envie d'être heureux. Et il veut être heureux parce qu'il voit l'autre heureux. Bien avant René Girard, Hobbes a bien montré que ce qu'on veut, c'est le désir de l'autre. C'est pas l'autre. Et donc en fait, le lien entre les hommes est dominé par l'envie. Et l'envie d'avoir le bonheur qu'on voit chez l'autre. Parce qu'évidemment, le bonheur chez l'autre, il est toujours plus vert, comme son herbe.
On est dans la comparaison.
On est dans la comparaison et en plus, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit de l'autre uniquement, c'est le bonheur lisse. On ne voit pas que l'autre est peut-être insatisfait dans son bonheur même. Donc, comme ça nous échappe, on voit toujours son bonheur comme plus beau que le nôtre.
Donc on veut l'avoir.
On veut l'avoir et la société est donc innervée, enfin c'est une sorte de nervosité permanente, c'est une nervosité du bonheur, de l'envie. L'envie naît de l'envie d'être heureux.
Florence Servan-Schreiber, on a l'impression aujourd'hui quand même qu'il y a un mouvement qui dit on en a marre de l'avoir. On est dans cette surconsommation, cette surabondance, etc. Et on voit avec la création notamment du lundi vert, dont on va parler dans quelques jours ici, mais on a envie d'être plus d'être.
Bien sûr. Nous sommes dans un... Nous vivons quand même, arrêtons-nous deux minutes, dans un luxe extrême. Notre pays n'est pas en guerre. Oui, il y a des inégalités, il y a des difficultés, il y a des réalités, mais jamais même la France n'a été dans cet état à la fois de prospérité, de perspective, de tranquillité, etc. Donc, nous créons des problèmes supplémentaires. Et alors, il y en a un qui est évident, et là, qui est un problème réel, qui est évidemment l'action que nous pouvons avoir sur la planète et sur la Terre, sur laquelle la Terre que nous foulons, parce que ça, quand même, c'est une vraie préoccupation. Mais sinon, c'est vrai que du coup, on va se dire, alors tiens, le lundi, je ne vais plus faire ceci, le jeudi, je ne vais plus faire cela, peut-être qu'en janvier, je ne fais pas ça, et puis en mars, je ferai autre chose. C'est, si on regarde bien, c'est extraordinaire de pouvoir se poser ce type de questions-là et s'offrir des modes de vie un peu différents pour voir ou pour rire ou pour essayer.
Peut-être à condition que ça ne devienne pas de nouvelles injonctions, mais de vraies intentions.
Si c'est une intention, ça n'est pas une injonction, ça n'est pas une mode et ça n'est pas le lundi. Vous voyez, si vraiment on réforme son mode de vie, on réforme son alimentation, on réforme la manière dont on entretient des relations avec des gens, parce que c'est ça qui compte. Vous dites un loup, l'homme est un loup pour l'homme, mais l'être humain, l'autre, est quand même notre absolu meilleur compagnon pour une qualité de vie, d'expérience. On ne peut pas vivre sans lui. Autant que ce soit chouette, autant que justement nos relations soient douces, soient drôles, soient porteuses, soient encourageantes, qu'on se réjouisse du bonheur des autres, ça se sont des vrais choix, plus que ce qu'on mange le lundi, je trouve. Hein, pour
sauf si c'est ne pas manger de la viande, ça je le soutiens. Mais
oui, mais j'allais dire, mais c'est la boutade, parce qu'on va en parler. Normalement, on en parle d'ici quelques jours dans Enquête de sens. Évidemment, oui. Ces choix, on les fait déjà. Ce sont des choix de bon sens.
Mais parce que vous avez raison, Sophie, c'est l'injonction qui est appauvrissante. Toute injonction. Appauvri. Et l'injonction à être heureux, paradoxalement, alors chez moi, suscite l'envie de dire j'aimerais qu'on prenne en compte le malheur, parce que finalement la vie est tissée des deux, mais le quotidien rend parfois très difficile, parce qu'il est le quotidien, le bonheur. Donc je crois que c'est plutôt ça qu'il faudrait prendre en compte. Et parce que l'injonction formate. On est tous passés par des injonctions, puisqu'on a tous été plus ou moins éduqués, plus ou moins bien éduqués. Enfin, mais il y a quand même une simplification. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, autour de la méditation, qui est une chose, qui est une chose ancestrale, enfin, on n'a pas attendu le bouddhisme en Europe pour pratiquer la méditation. Descartes a appelé son livre Méditation métaphysique. Mais le fait que ça soit devenu une injonction, l'a formaté, elle a appauvri. Moi, j'entends autour de moi plein de gens qui méditent. Et en fait, ils le font de façon formelle, en extériorité, alors que le but était tout le contraire, hein, j'en ai bien conscience. Et de fait, le bonheur commandé s'affiche sur tous les réseaux sociaux. Enfin, c'est un bonheur instagramisé qui est devenu très photogénique, qui tient dans...
Artificiel.
Artificiel, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut qu'il fasse beau, il faut qu'il soit beau. Donc, il tient dans la surface même, il devient un cliché.
Florence, alors, je vais m'élever contre ça.
C'était le but.
Je pense bien aussi.
Non, alors, et je vais pas vous parler du bonheur, je vais vous parler d'Instagram. Justement, sur Instagram, tout est beau. C'est formidable d'avoir un endroit où tout est beau.
Y compris la cuisine.
Y compris la cuisine. Non mais les plats. Non mais justement, je trouve que alors là aussi c'est l'artiste qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous qui va jouer avec cet outil, hein, qui en fait n'est qu'un outil de plus, où on va pouvoir, alors sur Facebook on va plutôt apporter éventuellement ses combats, voilà une utilité de Facebook, on peut y apporter ses combats si on veut. Sur Instagram, on se donne un peu de mal pour que ce soit joli. Et comme le reste du temps ça n'est pas aussi joli, hein, même dans nos vies, quand je vous dis ça aussi, c'est le moment de vacances de la journée quand on va poster sa photo ou l'image. Imaginez où mon père, Jean-Louis Servan-Schreiber, qui a 81 ans, que j'ai formé à Instagram l'été dernier, au début, évidemment, regardait ça en disant « je vois absolument pas l'intérêt, est-ce qu'on a envie de voir la vie des autres ?» Enfin, une réaction comme ça, tout à fait légitime. Il s'amuse comme un fou. Pourquoi ? Parce que c'est l'anticipation. Donc, c'est la sérotonine que va provoquer le cerveau, que va fabriquer le cerveau en imaginant...
Qu'on appelle l'hormone
l'image,
du bonheur.
Hein. Exactement. L'image qu'il va poster, il l'a fait, il la poste. C'est un jeu. Nous pouvons jouer. Je suis pour l'inutile. Je suis pour la frivolité. Je suis pour le loufoque. Je suis pour les choses qui apportent quand même justement de la joie. Vous savez ce que c'est pour moi ? La joie vient de deux choses. Soit c'est de l'hyperprésence... Soit c'est de l'absence. Donc soit je suis vraiment à ce que je fais et même poster une photo sur Instagram peut être quelque chose que je fais pour de vrai. Soit je suis dégagée de la réalité parce qu'il se passe quelque chose qui me fait rire, qui me distrait, qui m'emmène un peu à l'extérieur de ce qu'est ma vie en vrai.
On s'évade.
On s'évade.
Oui, alors je suis d'accord. Je pense que nous avons besoin de prendre des vacances du réel et c'est effectif. Et je suis très contente de vous entendre dire que ce bonheur est une façon de prendre congé du réel parce que certains n'ont pas la franchise que vous avez. Mais alors, je vais jouer le philosophe oiseau de mauvais augure parce que c'est aussi notre rôle. Il y a un côté consolateur dans le fait de se consoler du réel, de prendre congé avec lui. Je suis d'accord. Mais, encore une fois, le réel est là et nous rattrapera. Et je pense que vous avez la distance utile qui permet de dire « c'est un jeu, je fais jouer, mais le réel est là ». Moi, ce qui m'inquiète, c'est la confusion des genres. C'est qu'effectivement, on finit par penser que le bonheur, c'est cela, et qu'il faut vivre en prenant congé du réel. Or, je crois que ça a donné deux choses. Ça a donné le fait qu'on est moins armé pour affronter le réel, parce qu'on prend des vacances, mais la rentrée est là. Je crois qu'en ces jours de rentrée, on peut le dire. Elle est là, elle nous rattrapera de toute façon. Et que je pense que ça a modifié notre rapport au négatif en général, parce qu'on lui a donné son congé, on a voulu le positiver.
Et on l'évacue, on veut l'évacuer.
L'évacuer, le ripolliner, l'instagramiser, même si ça fait beau, n'empêche que le négatif est une forme de laideur et de souffrance. Et je crois qu'on l'a mis hors jeu, qu'il est devenu l'exilé, le condamné, celui qu'on laisse à la porte de nos vies. Et quand il arrive dans nos vies, on ne sait plus quoi en faire. Et je suis frappée de voir, il y a des expressions que je trouve à la fois fausses et dangereuses, comme « il faut positiver, t'es malade, mais le moral compte ». Évidemment que le moral compte, il faut te battre, etc. Ben non, il ne faut pas se battre. Le négatif, ce n'est pas forcément ce qu'il faut à tout prix, à tout craint, positiver.
Allez, on va poursuivre et puis on va écouter Florence qui va répondre à Laurence. Restez bien avec nous pour cette discussion passionnante autour du bonheur et de la joie. Aujourd'hui, dans Quête de sens, on se retrouve juste après ça.
Quête de sens, 01 56 56 44 00.
Monsieur et Madame Martin ont leur robinet qui fuit. Ils perdent 5 litres d'eau par heure, sachant qu'un litre d'eau coûte...
Monsieur, j'ai la solution.
Déjà ?
Ben oui, faut qu'ils appellent plombier.com.
Plombier.com ? Bravo Kevin, ça c'est un problème résolu.
Une fuite d'eau ? Plombier.com. Un évier bouché ? Plombier.com. Votre chaudière est en panne ? Plombier.com. Déplacement, une heure de main-d'œuvre, petite fourniture est garantie à partir de 149 euros.
Plombier.com, plombier.com.
Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. À lire en janvier dans Diapason, un grand dossier sur Félix Mendelssohn, prodige de la musique romantique. Dans le même numéro, ne manquez pas l'interview exclusive du chef d'orchestre René Jacobs, figure majeure de la musique baroque. Diapason, c'est aussi un double CD événement. Les plus belles valses de la famille Strauss dans des interprétations légendaires. Avec Diapason, osez être classique.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Trop nombreux encore sont les personnes qui pensent que nous bénéficions des subventions de l'Église. Et pourtant, ce n'est pas exact. Radio Notre-Dame est totalement autonome financièrement. Cela en fait un média libre d'expression, mais qui pour émettre et se développer a besoin du soutien de ses auditeurs. Si vous voulez devenir les acteurs de cette radio que vous écoutez, envoyez-nous votre soutien financier au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, et sur notre site internet, bien sûr. Merci.
En quête de sens, Sophie Noaille.
Allez, en ces jours où le soleil nous fait un peu défaut et on est un peu encore dans la morosité de ce début d'année avec ce qui se passe peut-être en France, alors qu'on n'est peut-être pas si malheureux que ça finalement. Deux femmes qui nous ensoleillent ce matin et qui nous font réfléchir, Laurence de Villers, doyenne de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, et Florence Servan-Schreiber, fondatrice de la fabrique Akif, notamment premier spectacle de la psychologie positive, Bloom, l'atelier de créativité, je vais y arriver, l'atelier d'écriture qui fait du bien, et puis la nuit du kiff qui aura lieu le 17 février prochain, on en reparlera évidemment. Florence Servan-Schreiber, alors vous voulez répondre à Laurence?
Oui, je ne crois pas beaucoup à l'injonction au bonheur. Je vais vous dire pourquoi. J'ai tout à fait confiance, enfin je trouve que nous sous-estimons la capacité des gens à être dans la réalité quand on dit ça. Quand on dit, si vous répondez à une injonction au bonheur, vous gommez la réalité, tout le monde est dans la réalité. Par défaut, nous sommes dans la difficulté, il est impossible de la gommer. Donc on va devoir quand même trouver des moyens de fonctionner. D'abord parce que quand on croise quelqu'un et qu'on regarde un visage, même qui a l'air lumineux ou ensoleillé, on n'a aucune idée de ce qui se passe en vrai dans la vie de cette personne. Et je suis persuadée que la difficulté, nous sommes tous très très au point sur ce que c'est. Personne tout à coup ne découvre la difficulté en disant « Oh mon Dieu, mais d'où ça vient ?» Nous avons tout petit déjà éprouvé des choses, des frustrations, des difficultés, des déceptions, des peines, tout simplement. Je veux dire, et vous savez qu'il y a beaucoup plus d'émotions négatives que positives. Il y en a 8 négatives, il y en a 3 positives. Même dans le vocabulaire, nous n'en avons pas suffisamment.
Et on a peine à les trouver quand on les demande.
Donc ça, c'est clair. Positives. Tout le monde sait. Le négatif, franchement, nous habite absolument tous. Et donc, c'est vrai que quand on commence à s'attacher un tout petit peu aux circonstances ou tout à coup, alors quand vous savez, je parle souvent des kiffs, un kiff, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de la gratitude. C'est ça. C'est
justement, Florence Servan-Schreiber, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette fabrique à kiff?
Ah, alors la fabrique à kiff, ça c'est très simple. Donc, ma préoccupation, c'est la pédagogie autour de ces questions-là. Ça, c'est ce qui m'anime le matin, je me lève pour ça. Et à un moment, à force de faire des conférences, donc des choses qui sont un petit peu formelles, je me suis dit, mais si on faisait la même chose, vraiment en se marrant, c'est-à-dire avec une promesse qui est une promesse de divertissement. Et de faire passer l'enseignement par le divertissement, donc dans un théâtre, qui est une approche tout à fait différente, on s'achète une place de théâtre pour aller passer une bonne soirée avec son conjoint, ses copains, etc. Sauf qu'une fois qu'on est assis dans le fauteuil, il vous arrive plein de choses et vous ressortez en ayant fait l'expérience déjà d'un certain nombre d'outils dont cette pédagogie évidemment me plaît tant.
Notre différence, elle est à la fois minime et majeure. C'est que votre préoccupation, c'est comment être heureux. Et je pense que alors sans doute que la philosophie m'a formée ou déformée, mais une certaine philosophie. Alors que moi, c'est comment supporter de ne pas l'être. Et je pense qu'il y a plus de réalisme et d'honnêteté à dire comment supporter de ne pas être heureux, plutôt que de dire comment être heureux. Parce qu'encore une fois, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, je dis que c'est la déviation possible dans la psychologie positive qui étudie les moyens d'être heureux, ce qui rend heureux, pour le dire de façon très large. Il y a ce congé pris avec la réalité, encore une fois, qui fait que nous serons désarmés par elle. Parce que nous nous enfermons quand même dans des bulles, certes de bonheur et qui font du bien et qui consolent et qui aident peut-être à revenir au réel. Mais c'est ce retour au réel qui, à mon sens, risque d'être très difficile.
Ça veut dire qu'il y a un moment,
très difficile.
Ce que vous dites, Laurence de Villa, c'est qu'il y a une suspension, on suspend la réalité.
Ah oui, il y a une suspension.
Est-ce qu'on n'en a pas besoin, justement, pour continuer à vivre et continuer à avancer?
Non, mais je ne vais pas... Moi-même, hein, je ne croyez pas que je vis de façon austère sans essayer de me donner des bonheurs illusoires. Mais voilà, il y a un côté qui peut être illusoire. Et encore une fois, je pense que cette suspension des choses et du réel peut faire que le retour est difficile et que notre rapport au négatif, vous le dites, il nous habite, on sait ce que c'est depuis tout petit, ou quand on fait un caprice, on se rend compte que le réel ne nous obéit pas. Mais c'est précisément ça qui est difficile dans la vie. Il nous habite et qu'est-ce qu'on en fait? Il est là, il est massif, il est compact, il est muet, il est indifférent à mes désirs, négatif, et qu'est-ce qu'on fait?
Florence Servan-Schreiber.
L'image que j'ai, Laurence, en vous écoutant, c'est que c'est comme si le bonheur et le malheur étaient des rails de chemin de fer qui ne se connectaient jamais. C'est-à-dire, il y a l'un ou l'autre, donc je passerai, selon la manière dont vous le présentez, je passerai de l'un à l'autre, je quitte le malheur pour aller me poser sur le bonheur, etc. Pour moi, c'est le même chemin. C'est le même rail. Il n'y a qu'un seul fil que nous suivons, qui passe par des moments de malheur, qui passe par des moments de malheur. Donc, il passe de bonheur. Donc,
la route peut être sinueuse.
La route est sinueuse. Ce n'est pas qu'elle peut l'être. Elle l'est absolument. Et nous passons notre temps dans une journée, dans la même heure, dans les mêmes 10 minutes. Aucune d'entre nous ici n'est à l'abri d'un texto effroyable. Or, la journée a très bien commencé. Et puis, ça nous le disons dans le spectacle, mais aucune d'entre nous n'est à l'abri d'un coup de foudre en sortant d'ici. Donc, c'est vraiment un espèce de fil comme ça que nous suivons et que nous allons continuer et qui va nous emmener dans différents paysages.
Est-ce que la pédagogie, justement, Florence Servan-Schreiber, serait justement de faire un peu plus attention, d'être plus en éveil, d'accueillir un peu plus ce qui va nous rendre heureux?
Alors, ça c'est évidemment une des façons de faire, mais pour revenir sur le fait de supporter, je crois que la pédagogie, là, en tout cas la psychologie positive, a pour fonction de nous aider avant tout à nous supporter nous-mêmes. C'est-à-dire nous supporter avec, en effet, nos doutes, nos failles, nos défauts, nos travers, etc. Et malgré ça, malgré cette espèce d'être imparfait et compliqué que je suis, je peux quand même aspirer à ce que ce soit un peu éclatant, puisque voilà, jusqu'à preuve du contraire, nous ne passons qu'une fois. Donc, dans ce passage-là, nous n'avons qu'une vie. Comment faire en sorte qu'elle soit la plus...
Sur Terre, en tout cas.
La plus dynamique, ou chacun son terme, la plus connectée, la plus reliée, la plus utile, la plus... Mais il y a quand même des mots positifs dans tout ça, qui sont l'objectif de cette trajectoire-là. À quoi ça sert ?
À quoi ça sert la vie ? C'est la grande,
à quoi ça
la
sert
grande
la vie
question.
C'est ça. À quoi ça sert la vie ?
À quoi ça sert la vie ?
Alors, et pas qu'à souffrir. Voilà, c'est mon postulat.
Non, mais alors mon postulat n'est pas nous sommes là pour souffrir et il faut souffrir.
Mais il faut l'accepter.
Mais il faut l'accepter et l'accepter tel qu'il est. C'est-à-dire que je crains que quand on dise qu'il faille accepter le malheur et le négatif dans la vie, on le fasse en l'escamotant. Et alors, c'est peut-être pas réjouissant ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a là une forme de d'œuf salutaire que doit faire la philosophie, c'est de dire le négatif doit être accepté en tant que négatif. Pas comme, par exemple, autour de l'échec. J'entends beaucoup, mais l'échec, ça aide à rebondir, ça aide à mieux se connaître, ça aide à faire mieux, etc. Oui et non. Non, dans le sens où il faut d'abord l'affronter comme échec. Vous voyez, c'est ces tours de passe-passe, de transformation du négatif en positif, un peu trop rapidement, qui m'inquiètent. Alors, quand c'est l'échec, évidemment, il vaut mieux se dire qu'on va rebondir, etc. Avec la souffrance, il y a un côté plus indigne, par exemple, encore une fois, c'est ce que je disais, de dire qu'il faut se battre. Ça donne des malades qui culpabilisent parce qu'ils ne se battent pas, alors que je crois que c'est un droit fondamental du malade à ne pas vouloir se battre. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une façon d'appréhender le négatif qui est d'en faire déjà un presque bien, déjà du presque positif, et qui, à mon sens, ne lui donne pas toute sa place. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'éterniser et se complaire dans le négatif, mais je pense qu'on ne rebondit sur du négatif que quand déjà on l'a regardé dans les yeux. C'est pas marrant, mais je pense qu'il faut le faire.
Mm-hmm. Et heureusement, il y a de l'espoir. mais oui, et vous savez, quand on est face à l'échec...
C'est ce qui nous fait vivre aussi.
On coule dans l'échec. On sait qu'on est dans l'échec parce qu'on le ressent physiquement, parce que c'est dur, parce que ça fait mal.
On le subit.
Mais on le subit, enfin peu importe, on le vit, on y est pleinement. C'est impossible d'effacer la sensation. Mais au moins se dire, peut-être qu'il y a un peu de soleil au bout du tunnel. Donc, tout ça, évidemment, oui, vivons la difficulté et la douleur, mais c'est vrai, franchement, quand même se dire que, voilà, il y a un peu de soleil au bout.
Mm-hmm. Oui, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses qui sont toujours présentes et qui vont ensemble, c'est l'inquiétude et l'espoir. Parce que quand vous disiez le chemin de la vie, c'est à la fois le malheur et le bonheur, et au sein même du bonheur, cette menace qu'il ne durera pas ou que peut-être on va avoir une nouvelle effroyable, c'est ce qui fait notre inquiétude, je crois. Elle n'est pas forcément douloureuse en permanence, mais c'est une sorte de base continue qui fait qu'on est, on n'est jamais tranquille.
Mais justement, Laurence de Villers, mais pour en revenir à la joie, est-ce que cette joie qu'on parlait tout à l'heure on se bat d'abord contre nous-mêmes, finalement, c'est d'abord un combat intérieur. Mais justement, est-ce que cette joie, elle n'est pas à l'intérieur de nous ? Et c'est le garant, finalement, du chemin que l'on va avoir et qui va nous permettre d'avancer et d'affronter toute cette réalité.
Mais le bonheur serait une joie permanente. Et en fait, il y a beaucoup de philosophes, je pense à ce philosophe qu'on a érigé en philosophe de la joie, Spinoza, qui dit effectivement, il fait un constat...
Sur qui on a beaucoup écrit, et notamment Frédéric Lenoir, récemment.
Bon, qui n'a pas grand-chose de spinoziste, en fait. Il fait le constat que les bonheurs qu'il voit dans la vie, l'ambition, la richesse, les honneurs, la réputation, enfin tout ce qui peut être source de bonheur, ça ne dure pas.
Et ça, tous
disent.
Non, mais Saint-François l'a déjà dit. Voilà. Saint-François d'Assise, avec la joie parfaite, l'a déjà dit.
Le malheur du bonheur, c'est que même quand il est là, il ne dure pas. Et même quand il est là, on est déjà inquiet du fait qu'il ne dure pas. Donc Spinoza dit, moi, je veux trouver un bonheur qui me procure une joie qui ne passera pas. Parce que la joie, hélas, elle passe. Et là, sa réponse, elle est pas très enthousiasmante, elle est assez aride, c'est qu'il vaut mieux connaître ce qui nous fait agir et ce qui nous agit que de ne pas le connaître, et ça nous procurera un bonheur. parce que en fait je saurais ne pas
accepter.
Je saurais ne pas m'attrister de choses que je pourrais pas changer et je saurais accepter ce qui m'arrive. Voilà, je saurais être à la hauteur de ce qui m'arrive. C'est ça en fait le bonheur de Spinoza. Donc effectivement, pour vous répondre, la joie elle serait en moi, c'est la façon dont je vais me débrouiller avec la vie. Je vais me trouver une philosophie de la vie qui fait que je pourrais être à la hauteur de ce qui m'arrive. C'est ça, vivre, hein, en fait. C'est, voilà.
Est-ce que c'est ça, Florence Servan-Schreiber, de muscler son bonheur ?
D'être à la hauteur de ce qui nous arrive ? Bien sûr, c'est d'être lucide et actif. Il y a quand même, dans l'idée d'être plus heureux, en tout cas dans la manière dont je le conçois, ce n'est pas que de la contemplation, il y a de l'action. Et l'action, par exemple, va remplacer nos émotions. C'est-à-dire que quand nous ressentons des choses qui sont trop lourdes, il y a une chose que l'on peut faire, c'est d'agir, c'est de se mettre en mouvement, c'est de faire autre chose. À ce moment-là, on sort du contexte, on fait autrement. Et on
notamment
va...
pour les autres.
Notamment pour les autres, mais même pour soi, même de travailler, de produire, de créer,
oui, de
réfléchir.
De
mais
absolument,
oui,
absolument.
Or, c'est difficile. Quand on est l'action, peut être difficile et même aller faire des choses pour les autres,
ça demande des efforts,
ça demande un vrai engagement. Donc, nous allons tirer du bonheur, de nouveau, de la difficulté. Et une vie trop simple va nous procurer moins de satisfaction. Alors, à moins qu'on soit dans la contemplation, de nouveau. Mais dans notre ère, aujourd'hui, en 2019, en France, nous sommes quand même des gens un peu agités. Et ce qui
ça
va...
veut dire quoi, Florence ?
Non, mais ça veut dire que nous sommes actifs, nous faisons des choses, nous appartenons, nous collaborons, nous produisons, nous sommes engagés. Et c'est ça qui va aussi nous procurer des satisfactions. C'est pas simplement « oh, c'est sympa où il y a du soleil », c'est d'être dans un mouvement qui va être relié à d'autres personnes qui, là, va nous apporter de la joie.
Oui, je pense qu'il y a une vraie joie de l'action dans son commencement même. C'est-à-dire le fait d'être passé du moment où je ne faisais pas au moment où je fais.
Parce qu'on se met en mouvement.
On se met en mouvement et on inaugure du nouveau quand même. On apporte quelque chose qui n'existait pas. Alors, ce n'est pas une création ex nihilo avec tambour, trompette, percussion, etc. Un côté wagnérien, mais n'empêche, il y a un côté wagnérien à chaque fois qu'on commence quelque chose. Donc oui, il y a un vrai bonheur de l'action et il y a aussi ce risque qu'on prend. Il y a un risque permanent. Donc, il y a cette inquiétude qui nous fait agir parce qu'on ne se contente pas de l'ici et du maintenant. Je crois que c'est une intranquillité foncière qui fait que le présent est illusoire. On ne se maintient pas dans le présent. Et puis, il y a ce que vous disiez, il y a une espérance. C'est-à-dire qu'en fait, je suis déjà là-bas. Non pas au sens où je serai insatisfait. L'espoir n'est ni une fuite ni une insatisfaction. C'est une action. Je pense que c'est une action. L'espoir est toujours une action. C'est pas rêver à d'utopie, à des utopies imaginaires qu'on verra jamais. C'est être déjà le pas d'après.
Vous savez, j'ai donc beaucoup réfléchi à ces questions très récemment en créant donc cet atelier d'écriture qui fait du bien. Alors, la promesse d'un tel programme, donc c'est quelque chose qui se fait chez soi, en ligne, c'est vraiment d'entraîner, de proposer des textes à écrire. Pourquoi ? Parce que c'est une action d'écrire, que c'est en plus quelque chose qui va partir de notre cerveau et un peu du...
Et puis après, c'est physique.
Après, c'est physique, et puis c'est assez flou dans notre tête.
Oui.
Nous avons des aspirations. On ne sait pas très bien. Ça met de la clarté.
Ah, oui.
Et quand on est obligé de le transformer en mots, vraiment, on se sent différemment après. Donc c'est tout un programme comme ça, on passe 4 mois ensemble, il y a des textes qu'on publie, on va se les commenter, on va se les partager, des choses qui sont extrêmement secrètes. Parce que, de nouveau, pourquoi est-ce que j'ai mis autant d'énergie là-dedans ? Pour que nous ayons la possibilité de savoir, quand je vous dis qu'il y a des outils, si je m'assieds avec une feuille de papier, déjà, ça va mieux.
Alors moi, là, je souscris, je pense qu'il faut qu'on retrouve l'habitude d'écrire un journal. Je pense que d'écrire rend précis et apaise, parce que ça met à distance.
Absolument.
Donc, là-dessus, Florence,
les choses
nous sommes d'accord.
Hein,
ah ben, nous sommes complètement d'accord. Moi, je pense qu'il faut.
Alors, vous allez être d'accord sur Pharrell Williams aussi, qui
oui,
a remporté, évidemment, tout un succès, évidemment, sur cette chanson, Happy.
Radio Notre-Dame. By the way.
friends to you. Don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't numb you. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't numb you. Bring me down, I said. Bring me down, can't numb you. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't numb you. Bring me down, I said.
Because I'm happy.
Clap along.
Happy, Pharrell Williams qui a remporté, qui a vraiment fait exploser vraiment les
le bonheur fait vendre.
Le bonheur fait vendre. Le bonheur fait vendre, Laurence de Villers.
Mais la bonne musique aussi, franchement, l'envie de danser aussi.
C'est vrai, hein, j'espère que vous avez dansé chez vous en nous écoutant aujourd'hui avec deux invités qui nous... Qui nous mène vers le haut, voilà, aujourd'hui, qui nous font réfléchir, et ça fait du bien, et ça nous apporte beaucoup d'oxygène, Laurence de Villers, Florence Servan-Schreiber. On parlait de cet atelier d'écriture qui fait du bien. Il faut revenir à l'écriture, hein, Laurence de Villers.
Ah, il faut revenir à l'écriture et revenir à l'oral aussi, parce que alors par commodité, hein, on est dans une sorte d'entre-deux qui est ni vraiment de l'oral, parce
un petit peu de tout,
hein. Il perd de son éloquence, et ni vraiment de l'écrit, parce qu'il perd son sens de l'écrit, de la langue soutenue. Donc effectivement, il faut cultiver l'écriture de soi. C'est pour ça que je vous rejoignais en disant qu'il faut absolument cultiver l'écriture du journal, s'y astreindre tous les jours. Et il faut cultiver aussi l'éloquence de l'oral, les joutes oratoires, avoir du style à l'oral, parce que le style n'est pas réservé à l'écrit. Donc je pense qu'il y a ce bonheur de pouvoir s'exprimer, d'être compris et de jouer avec les mots. Enfin, il y a un jeu avec la langue. C'est pas juste respecter des règles.
Et si on revient à l'écrit, il y a quelque chose de l'ordre du monde intérieur dans l'écriture qui est vraiment privé. Et par exemple, on s'est rendu compte que quand nous sommes porteurs d'un secret, c'est quelque chose qui a un poids énorme. D'être le porteur d'un secret, quel qu'il soit, et de ne pas pouvoir le dire aux autres. Or, parfois, il y a des choses qui nous habitent que nous ne voulons pas dire aux autres pour tout un tas de raisons, ne pas les blesser parce que c'est pas possible, etc. De l'écrire immédiatement va libérer.
Mais oui,
mais même physiquement, il y a des gens qui en sont malades. Donc, quand vous dites tenir un journal, sans que ce soit tous les jours, parce que là, de nouveau, c'est intimidant d'écrire tous les jours, mais d'avoir quelque part un endroit où on peut écrire, se confier, nous avons tous besoin d'un endroit où nous pouvons nous confier tel que nous sommes. Parfois, c'est une copine, parfois, c'est un parent, parfois, c'est un conjoint.
Un prêtre, pour ceux qui
vont se confesser. Absolument, mais c'est exactement ça l'idée. Si jamais on n'a pas ça dans sa vie, eh bien, on prend une feuille de papier et à ce moment-là, on peut l'écrire en étant sûr que personne ne le lit.
Oui, parce qu'il y a être soi et apprendre qui l'on est. Je pense qu'il y a les deux, parce qu'on croit bien se connaître et ce n'est pas le cas. Et souvent, on prend des masques pour notre être-même ou l'image qu'on veut de soi, l'image qu'on veut donner.
On a un peu ça dans notre... éducation chrétienne, Laurence de Villers, cet oubli de soi.
Mais oui, mais on ne peut s'oublier que si on se connaît déjà. Je pense que s'oublier trop vite quand on n'a pas de monde intérieur et quand on ne s'appartient pas...
C'est-à-dire cet épanchement sur soi.
Oui, alors, c'est deux choses. C'est que se connaître n'est pas un épanchement. Il n'y a pas de complaisance. Dans la connaissance de soi, je pense toujours, quand je pense au soi ou à me connaître, à se connaître, je pense toujours à ces phrases.
Connais-toi toi-même.
Ou connais-toi, voilà, il y a ça. Mais alors d'autres phrases atroces, proprement atroces, atroces parce que très exigeantes et très fortes, de Montaigne dans les Essais, où il dit, c'est presque de la boucherie, hein, où il dit qu'il faut aller se traquer, se débusquer, s'arracher, aller ouvrir ses entrailles. Ah oui, parce que Montaigne, on l'a aussi un peu adouci, c'est pas un tendre.
Il faut aller le relire. Hein.
Ah, faut aller le relire, ces passages. Il faut absolument aller le relire parce qu'il fait de la connaissance de soi, non pas une complaisance, mais une anatomie. Il faut vraiment aller se traquer, se débusquer. Et encore une fois, je pense qu'on ne connaît pas les autres, on ne va pas aux autres si on ne s'appartient pas soi-même déjà et d'abord. Ça commence par soi.
Alors, la connaissance de soi, dans mon vocabulaire, ça donne de la floraison.
Oui, c'est pas la boucherie
c'est
de...
Pas... C'est pas tout à fait.
Non, mais on l'aura compris. Les couleurs plus douces, c'est vous. Le noir, c'est moi.
L'émerveillement, on en revient aussi. On y revient, pardon, Florence Servan-Schreiber. On parlait tout à l'heure aussi de la gratitude. Ça, c'est important, être dans la gratitude.
Alors, franchement, l'émerveillement, pour moi, c'est le cadeau ultime de l'existence. C'est-à-dire quelque chose qui va nous cueillir, qui va nous surprendre, qui va se présenter au bon moment, qui va nous réconcilier avec l'humanité, qui va nous faire adorer la beauté du monde, pour moi, c'est le cadeau total.
C'est une source de la joie.
Mais c'est une source absolument gigantesque de la joie. Et l'émerveillement peut entraîner de la gratitude. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va s'arrêter juste un tout petit instant, sinon c'est juste un plaisir. Et si on s'arrête et qu'on se dit « Alors là, franchement, pour ça, merci », on est dans la gratitude. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des études en plus qui ont démontré que quand on fait ça, quand on éprouve cette sensation-là, on peut gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie supplémentaire.
Donc ça vaut le coup.
Oui, c'est physiologique c'est aussi. Physiologique. Donc c'est passionnant, passionnant.
Alors moi, je l'appellerais autrement. Mais je pense que le fond est commun. Je l'appellerais la curiosité. Parce qu'effectivement, dans l'émerveillement, il y a le risque que ça s'arrête en plaisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de plaisir, mais que ce soit juste un plaisir qui n'aille pas jusqu'à se verbaliser et qui n'aille pas jusqu'à se verbaliser
Vous
en gratitude.
On est passif ? On resterait passif ?
Il y a un risque de ressentir et de s'arrêter à ce ressenti. Que ce soit juste un plaisir. Alors, c'est très bien d'avoir un plaisir en voyant la beauté des choses, des mots, des phrases dites, des paysages. Mais pour que ça nous nourrisse et nous tienne chaud quand il fait moins chaud dans la vie, il faut que ça aille plus loin que le plaisir. Et je pense que la curiosité est un relais à l'émerveillement. Parce que la curiosité met des mots. Je pense que c'est important de ne pas rester dans l'indicible. Il y a une vraie richesse supplémentaire à mettre des mots. Et d'une certaine façon...
La curiosité, ce serait le questionnement de pourquoi c'est un émerveillement.
La curiosité au sens où même avec le beau ou la beauté des choses ou la bonne surprise, la beauté des choses, des êtres et des phrases dites. Hein, pour moi, tout ça, c'est...
Ou du métro qui arrive sur le quai en même temps que nous.
Oui, ça ou voilà, ou du feu vert partout, etc. Effectivement, il y a ça.
Ou du rayon de soleil qui va poindre aujourd'hui.
C'est pas forcément s'interroger, mais c'est le dire et se le dire. C'est-à-dire que bah là, on connaît quelque chose qu'on connaissait pas. Donc, c'est transformer la bouche ouverte et un ébahissement en quelque chose qui est maintenant solidifié, qui est en moi, que je connais, qui m'a nourri. Voilà, c'est une substance.
Petite brique qui vient se rajouter.
Voilà, la curiosité, je pense, donne de la substance. Et d'une certaine façon, je pense qu'il est plus important de privilégier la contemplation que la méditation. Parce que la contemplation demande justement de voir grand, de se remplir de plus grand que soi.
Et alors, nous sommes totalement d'accord. Et dans mon vocabulaire, c'est exactement et précisément ce qui s'appelle un kiff. C'est-à-dire que c'est de passer de l'émerveillement à, pour vous, la curiosité, pour moi, la gratitude.
Et ben voilà.
Mais c'est justement cette transformation qui fait que je vais le mettre dans ma besace. Et ça, je le note et je le prends et je le garde. Et c'est ça qui construit le bonheur.
Donc en fait, j'ai parlé comme Florence Servan-Schreiber.
C'est magnifique. Et
exactement.
Grâce
à toi. Mais nous parlons de la même chose, c'est ça qui est formidable.
Je m'émerveille.
Mais c'est bien l'idée qu'il y a plus grand que nous, que ça vient de l'extérieur, ouais. Qu'on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais que juste pour ça, ça mérite quand même d'être noté, parce que ça, c'est la magie. Et qu'il n'y a pas que de la difficulté, et qu'il faut de l'émerveillement, et qu'il faut un peu de magie, et qu'il faut des choses qui vont nous surprendre, et se rendre compte que nous sommes surpris. Et en effet, les gens curieux ont un avantage sur les autres, parce qu'ils vont capter plus de ces choses-là. Mais vous savez quoi ? Elles se produisent absolument pour tout le monde. Nous sommes dans les mêmes pièces, dans les mêmes rames de métro, dans les mêmes supermarchés. Donc, nous avons des expériences qui sont très similaires. Certains vont voir des choses, d'autres ne vont pas les voir alors qu'elles sont passées également. Donc, développer sa curiosité est une des premières choses.
C'est aussi reconnaître ces petits signes que la vie nous envoie.
Exactement.
Oui, oui, la curiosité, c'est apprendre à voir et d'une certaine façon, apprendre à penser. Il est important dans les choses intellectuelles, alors pas seulement la philosophie, parce que finalement, on en fait tous sans le savoir et on est tous beaucoup plus intellectuels qu'on imagine. Même travailler avec ses mains, c'est quand même réfléchir à ce qu'on fait. Donc, quand je dis intellectuel, c'est pas un métier, c'est pas une profession. Je crois qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui s'ignorent. Mais dans la pensée, la curiosité est indispensable parce que ça évite les phrases toutes faites, penser comme tout le monde, répéter ce qu'on a entendu, avoir des formules qui disent tout et plus rien. Et, vous savez, ces automatismes qui font que ben, finalement, on ne dit pas grand-chose. Voilà, pour moi, la curiosité, c'est la condition préalable à un bonheur qui est de dire quelque chose, d'être intéressant. Pas intéressant parce qu'on sera érudit, savant, mais intéressant parce que voilà, on a dit quelque chose. Et c'est un plus dans ma vie. Voilà, ce matin avec vous, c'était intéressant au sens où ça a nourri la curiosité. Il y a quelque chose que je n'avais pas avant, je repars avec quelque chose.
Mmh. C'est ce qui nous rend vivants, Florence.
C'est ce qui nous rend complètement vivants, c'est d'être traversé et pas de toujours décider de ce que l'on veut faire, mais aussi d'être dans cette espèce d'hyper-présence. C'est ce que vous dites, ça n'est pas tant de la méditation, c'est vraiment d'être là et d'être dans ce que nous faisons qui va créer de la richesse, de l'intensité. Et nous avons besoin d'intensité, pas que pour les choses déplaisantes, mais aussi pour les choses qui sont plaisantes.
Mmh. Être attentif à ce qu'on fait. Je pense que l'intensité donnée... Alors évidemment, il n'est pas en notre pouvoir de vivre éternellement, mais il est en notre pouvoir de donner du poids aux choses qu'on vit. Et cette intensité...
D'être présent aux autres, notamment, par
oui,
exemple.
Et à soi-même.
Bien présent aux autres.
Et présent aux autres et à soi-même. C'est-à-dire de faire les choses avec attention. Je fais ça, j'entends ce qu'on est en train de me dire. Donc aux autres, effectivement, je l'entends vraiment. Et je ne retiens pas uniquement ce que j'ai envie que l'autre dise, qui rejoint ce que je connais déjà. C'est ajouter de l'inconnu au trop connu.
Je vais vous donner un petit truc, parce que ça, on adore les trucs en psychologie positive, notamment concernant l'amour et concernant le couple et le couple à long terme. Un des secrets absolus des couples qui s'aiment longtemps, vous savez ce que c'est ? C'est de demander à l'autre comment s'est passée ta journée et d'écouter la réponse et
une fois qu'on fait pas ça, tourner le dos et aller faire autre chose.
Exactement, c'est d'être vraiment intéressé de manière tout à fait authentique à la journée de l'autre. Et ça suffit presque pour se sentir relié, pour se sentir entendu, accepté, aimé. Donc c'est absolument cette présence à soi, à l'autre, à l'instant, à ce qui se passe.
Mais on le sent toutes les deux, Laurence et Florence, que les gens ont besoin d'être reliés alors que tout porterait à nous délier et à nous séparer.
Alors là, c'est une question importante et grave d'une certaine façon. Est-ce qu'on a envie d'être relié ? Je pense qu'on est prise avec deux désirs contradictoires. Il y a le désir de l'autre d'être vu, ne serait-ce que vu, pas élu forcément, mais reconnu.
D'exister. Ouais.
D'exister. Et en même temps, il y a une forme d'animosité envers l'autre. L'autre, alors, c'est le grand mot qui semble magique, qui semble excuser tout, porter tout, apporter toutes les richesses, tous les cadeaux. L'autre serait comme une sorte de Père Noël. Bon, je ne dis pas le contraire, mais en même temps, l'autre, c'est très difficile. La bonté, l'écoute même est difficile. Pourquoi ? Parce que, et la morale ne dit rien d'autre, hein, ce mot un peu vieillot et qu'on préfère remplacer par éthique, mais ça veut dire la même chose. Mais la morale ne dit pas autre chose que la bonté est difficile. L'autre n'est pas forcément le cadeau, le bienvenu. Il est l'autre que moi. Et aller vers l'autre, ça rejoint ce que vous disiez comme astuce de psychologie positive, c'est déjà le regarder en tant qu'il est autre, dans son altérité. C'est pas le ramener à ce qu'il va me dire, ce qui va m'intéresser, m'en rapporter, ou ne pas l'écouter du tout. C'est prendre en compte ce qu'il est en tant qu'il n'est pas moi.
Oui, mais ce qui est chouette, c'est qu'au passage, il va quand même nous apporter des choses. Et que, en effet, je peux me rendre compte d'un point de vue philosophique que je suis complètement seule. Et de toute façon, d'un point de vue psychologique, nous le savons aussi. Nous sommes des individus, nous sommes quand même assez isolés les uns des autres. Mais d'un point de vue psychologique aussi, nous avons besoin de vivre ensemble. Nous ne survivrons pas tout seul. Donc, de toute façon, on est coincé avec les gens qui nous entourent.
C'est être coincé.
Quitte à être coincé, autant en tirer le meilleur parti, dont des satisfactions quand même qui valent le coup d'être vécues. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu des aventures avec d'autres personnes, mais quand même, il y a des choses qui nous nourrissent assez sérieusement.
C'est ce qui va se passer le 17 février, Florence Servan-Schreiber.
Alors ça, c'est une masterclass exceptionnelle, puisque nous sommes rejoints par des humoristes qui viennent enrichir notre spectacle, donc cette masterclass de bonheur autour des principes de la psychologie positive, de tout un tas de vraiment de gags, de sketchs formidables. La nuit du kiff. Absolument. Venez, le Rex est grand. C'est mon rêve de petite fille de jouer là-bas, je l'avoue. Hein, c'est vraiment un fantasme. Donc, c'est pour moi une journée assez extraordinaire.
17 février. Il va se passer plein de choses.
Il se passe plein de choses. Ça dure 2 heures malgré le nom que ça porte. C'est à 18h malgré le nom que ça porte. Ça s'appelle La nuit du kiff. Mais c'est un spectacle très joyeux, très instructif à vivre avec tout un tas de gens qui sont là aussi. Justement, il y a plein d'autres.
Une expérience
et le rire, quel bon exemple, le meilleur exemple à la fois de joie et de bonheur, parce que on cultive beaucoup le rire, l'humour et le comique, et en même temps, je ne suis pas certaine qu'on lui donne toute sa place. Y a un absolu dans le rire, il y a quand même une force de faire advenir un éclat de rire, donc un éclat de joie, d'une certaine façon. Joie. Et il y a cette intelligence du rire, peut-être pas chez tous, mais chez certains comiques, il y a cette intelligence du rire qui nous fait toucher le réel du doigt. Enfin, je trouve qu'il y a des leçons de philosophie dans le rire qui sont stupéfiantes, qui nous font accéder au sens de la vie.
Florence Servan-Schreiber, on arrive au terme de cette émission. Votre souhait pour 2019 ?
Eh bien, beaucoup. Alors, je vous l'ai dit en début d'émission, mais j'ai deux résolutions, de l'inutile et du loufoque.
Voilà.
Tout le reste, on ne peut pas l'oublier. Donc, autant ça, il faut se souvenir que nous avons besoin d'inutile et de loufoque.
Laurence de Villers.
Mais alors, moi, c'est peut-être un signe de vieillissement, mais la tranquillité de l'âme, la paix.
Sérénité.
Ouais, être apaisé, être dans la paix.
Et la douceur.
Et pour la donner, du coup, aussi. J'espère. Mais
voilà.
La paix.
Oui. Merci infiniment à toutes les deux, Laurence de Villers et Florence Servan-Schreiber. On retrouve évidemment votre actualité sur la page de l'émission, sur la page Facebook. On retrouve aussi le grand kiff, la fabrique du kiff.
L'atelier du kiff, aussi. Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien.
Bloom. Et puis, Laurence.
Laurent, je suis en train d'écrire un nouveau livre.
Voilà. Un nouveau rendez-vous, donc, à prévoir.
J'espère. Donc, dans la joie.
Dans la joie. Merci à toutes les deux.